Ascultați emisiunea de radio Marcaro pe 90,3 FM CKUT.
Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.
Aș vrea să-ți fiu eu liniștea când zgomotul te fură. Să vindec toate ranile în vreme de furtună.
Yeah.
La ce te gândești când ți-e privirea în gol, unde-ți pleacă vișele stop? La ce te gândești, ești aici sau nu ești, când te uiți la mine, mă mai vezi pe mine.
Camara nu cunoaște situri și vreau să mă iubești așa cum nici odată n-ai iubit, nu. Cu simțurile toate calde și însetate, să simți că noi trăim ceva ce nu s-a mai trăit, Nici în cele mai perfecte vise, nu ca în filme, nu ca prin reviste. Promisiunea mea eternă tu, doar să fii sincer și sincer să-mi spui.
La ce te gândești când ți-e privirea în gol, unde-ți pleacă vișele stop? La ce te gândești, ești aici sau nu ești, când te uiți la mine, mă mai vezi pe mine.
Everybody listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro.
On présente la deuxième partie de l'interview avec Philippe Chevalier.
Où là, on se fait encore avoir souvent.
Mais on a bien vu le site du Premier ministre du Canada a été hacké 3 ou 4 fois, un après l'autre là. Donc aussi des hacks au niveau financier, des comptes qui ont été piratés, hackés. Ça veut dire que c'est quand même, on est touché quand même aussi, peut-être moins comme tu le dis là. Et peut-être, je me pose la question, maintenant, avec le monde d'aujourd'hui, avec les guerres et puis ce qui se passe là, est-ce que c'est devenu plus dangereux et plus exposé, on est plus exposé à des choses qui peuvent nous toucher?
Oui, résonne comme un, si on parlait des jeunes groupes de pirates, résonne comme un jeune groupe de pirates qui n'est ni l'Iran, ni la Corée du Nord, ni les États-Unis, ni Israël. Je mets des pays démocratiques aussi dans la liste parce que tout le monde fait ça à tout le monde. Hein. Donc, ces groupes de jeunes-là peuvent saisir l'émotion, la peur qu'inspire le conflit Russie-Ukraine ou le conflit actuel Israël-Palestine, pour se doter d'un prétexte pour impressionner et faire peur. Quand tu te fais hacker et que le message qui est envoyé, nous sommes tel pays en guerre, nous sommes tel groupe terroriste, etc., la panique est plus forte. et la soumission de la cible obtient un bien meilleur résultat. Alors, même si le Canada n'est pas impliqué en première ligne, ben, oui, un peu quand même, mais pas à ce point-là, c'est une opportunité d'ambiance, d'atmosphère, au sens vraiment du mot « saisir une opportunité » qui est prise par les pirates pour profiter d'une atmosphère d'inquiétude générale pour être davantage dangereux, impressionnant, puis obtenir plus de soumission de la part des personnes pirates.
La confidentialité de données, parce que l'agence manipule beaucoup de données, des données, disons, confidentielles au niveau d'une personne ou au niveau d'une société, malgré tout. Comment est-ce que vous protégez ces données-là? Comment est-ce que vous vous assurez que, bon, elles ne sont pas, elles soient pas disponibles à tout le monde là ou,
Alors, je te félicite pour ta nomination d'inspecteur de la loi 25 que le gouvernement vient de te nommer, mais on est blindé sur ça. En tout cas, personne n'est totalement blindé, il ne faut pas dire ça, mais on est totalement conforme, c'est le terme exact. Nous ouvrons les dossiers clients s'il y a un motif légitime d'enquête. Le client est averti de notre politique de confidentialité, puis il doit collaborer avec nous et nous donner un maximum d'informations pour qu'on puisse prendre son dossier. Les informations personnelles sont conservées le temps nécessaire et selon la pertinence dans un nuage sécurisé, extraterritorial en plus, puisqu'il se trouve en Europe, dans ce petit pays bancaire merveilleux au milieu de l'Europe. C'est un nuage qui est extrêmement réputé pour sa sécurité. Donc, notre politique vis-à-vis des clients, c'est la conformité à la loi 25, y compris les nouvelles règles sorties il y a à peine 3 semaines maintenant. Ça, c'est la première chose. Et si ta question portait aussi accessoirement, non pas seulement sur les données clients, mais sur ce que nous récoltons au sujet des personnes que nous enquêtons, les enquêtes numériques se font évidemment sur sources ouvertes. Puis on est capable d'identifier quand, par le plus grand des hasards, on prend possession d'une information, d'un document disponible en ligne, mais qui ne devrait pas l'être. Donc, ce n'est plus une source ouverte, même si c'est disponible. Donc, on fait le tri et on met ça de côté. Important à savoir, quand on fait une enquête, on a un objectif d'enquête. Donc, si c'est quelqu'un qui est accusé de fraude dans une entreprise, on ne s'intéresse pas à sa vie privée, on s'intéresse qu'à la fraude. Donc, c'est une question de bon jugement. Rester concentré sur notre sujet d'enquête, collecter ce qu'on a le droit de collecter. Évidemment, tu parles d'un détective privé, puis tu l'as dit au début, issu du milieu du renseignement, bien sûr qu'il y a des zones grises, puis je le reconnais qu'il y a des zones grises. Quand on fait des faux appels téléphoniques, des entrevues prétextes, un peu de fausses représentations pour dialoguer avec quelqu'un, pour le faire parler, on ne tend pas de piège, on n'incite pas à un acte problématique et on ne se prétend jamais une entité gouvernementale. On va prendre d'autres fausses identités, le temps d'avoir une conversation avec quelqu'un. C'est une zone grise, mais qui n'est pas condamnable, qui permet parfois même de valider que notre cible est honnête. Hein. Donc, tant mieux. Alors, on a une éthique, je pense, assez solide. Puis c'est un de mes premiers critères d'embauche quand on ajoute quelqu'un à l'équipe.
As-tu découvert beaucoup d'attaques ou des tentatives d'attaque au niveau des entreprises, du vol de données ou je sais pas moi, par exemple de vol de choses qu'on innove ici, qu'on développe au Québec ou au Canada?
Si tu parles d'espionnage industriel, est-ce que c'est le sens de ta question?
Oui, exactement.
Parfait. Alors, si on parle de ça, c'est une très bonne question. Parce que tu m'as dit tantôt, est-ce qu'au Canada, on est vigilant sur les cyber-rançonnages, les phishing? On l'est quand même un peu. Mais sur ce sujet-là que tu viens de nommer, espionnage industriel, on n'est pas du tout vigilant. Et on est extrêmement vulnérable. Et c'est une réalité. C'est partout. C'est tous azimuts. Je vais te donner une stratégie. Je la donne à toi. Quelqu'un de mal intentionné peut s'en servir demain matin, mais je préfère en parler parce que quand on dénonce, c'est plus important que de garder secret. Sais-tu comment une entreprise de technologie informatique peut aller chercher l'intégralité des secrets d'affaires, des tarifs, des budgets, des soumissions de son compétiteur, c'est ultra facile. Il fait lui-même un appel d'offres grâce à une coquille vide, une fausse entreprise qu'il a créée. Il la publie sur l'une des multiples plateformes de gestion d'appels d'offres. Et à l'intérieur de l'appel d'offres, il va mettre des mots-clés qui vont allumer immédiatement les moteurs de recherche de ses compétiteurs, qui vont tous se précipiter pour lui répondre, sauf qu'ils ne savent pas à qui ils répondent, parce qu'il y a un filtre qui est fait par la plateforme de réponse à appel d'offres, et ils vont lui révéler quoi ? Leur tarif, leur méthode, leur délai de livraison, absolument tout ce dont l'entreprise fautive, la catente d'une piège, a réellement besoin. Et bien ça, c'est arrivé la semaine dernière, et c'est récurrent comme phénomène, et nous, on peut être amené à vérifier quelle est cette entreprise qui fait l'appel d'offres. Donc, c'est des choses qui arrivent. Mais ce sont des choses extrêmement graves, qui ont des conséquences économiques colossales, parce que c'est de l'absorption totale de secrets d'affaires, de technologies, et même pour les employés. Une autre affaire, un espionnage industriel qui, là, me ramène au siècle précédent, au 20e, et on va mettre de côté, si tu le permets, 30 secondes, l'aspect technologique informatique, qui est d'approcher une personne physiquement, un bar, un restaurant, un congrès, une foire exposition, un séminaire, pour l'approcher, se lier d'amitié ou simplement pour un contact avec elle. Cette technique s'appelle, elle est connue dans le renseignement, le MICE, M-I-C-E, pour monnaie, idéologie, contrôle, ego. Donc, repérer quelle est ta vulnérabilité. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est l'idéologie? Est-ce que c'est une petite gaffe que tu as fait un jour dans ta vie sur lequel on peut exercer un chantage? Ou est-ce que c'est de l'ego? Et obtenir ta collaboration pour aller chercher des informations sur ton employeur, ton entreprise. Écoute, ça, on croit que ça arrive que dans les films. On croit que ça arrive qu'à Genève, qui est la place de l'espionnage, ou à Paris ou à Londres. À Montréal, c'est quelque chose. Parce que personne ne fait attention. Et ce sont des situations fréquentes. On l'a testé, on l'a vérifié. On a même formé des ingénieurs IA ici à Montréal à repérer quand ils se font aborder par un inconnu qui en réalité veut les compromettre pour les mettre un petit peu en difficulté, voire en compromission et chantage. Alors, c'est un vrai problème que tu viens d'évoquer, qui n'est jamais évoqué. Pas assez.
Et ceci, ça se passe... En fait, c'est qui ce sont j'imagine, des services de renseignement de certains pays ou c'est qui
tant que ça.
Des sociétés qui embauchent des agents?
Oui, tu as de l'espionnage industriel classique qui peut être fait par des groupes de mercenaires qui sont capables de le faire. Mercenaires, on ne le prend pas au sens guerrier, mais au sens imagé. Tu as parfois directement le compétiteur lui-même qui réalise l'exercice par ses propres moyens, par ses propres ressources. Évidemment, des services de renseignement aussi, quand ce sont des enjeux stratégiques. C'est quoi un enjeu stratégique? C'est de la haute technologie informatique, c'est de l'IA, c'est de l'énergie, éventuellement de la finance, mais c'est plutôt les trois domaines que j'ai nommés. Mais dans le domaine financier, c'est fou comme il y a des agences d'enquête malhonnêtes, il y en a qui existent aussi, ou différents groupes, en finance c'est particulièrement vrai, et en technologie de l'information, en TI, qui se livrent régulièrement à ce genre de pratiques. La stratégie d'appel d'offres fautif là, que je te nommais, la compagnie qui l'a fait par elle-même, sans aide extérieure. Par contre, approcher quelqu'un dans un congrès, ça c'est plus élaboré. Et oui, ça peut être des groupes étrangers, oui. Plusieurs situations sont possibles. Mais il ne faut pas voir les services de renseignement étrangers partout, même s'ils sont là. Ça peut être du privé.
Et pourquoi, j'ai une question là qui me vient. Pourquoi est-ce que les autorités canadiennes ne prennent pas de mesures là, pour stopper ou bien pour diminuer ce phénomène?
Je jette jamais le blâme sur le service de renseignement, parce que c'est eux qui vont me payer une partie de ma pension dans quelques années. Je critique jamais. Je pense qu'ils savent, je pense qu'ils agissent très bien pour les cas d'importance stratégique, énergie, et haute valeur, qui aurait une importance, domaine de l'armement, ce genre de choses. Dans le domaine privé des PME, même si les services canadiens sont très bons, ils le sont. Ils ne peuvent pas être sur tous les fronts. Il y a un petit peu de vigilance à avoir de la part des entreprises. Donner un cas classique, parce qu'on l'a enquêté, on l'a documenté, on l'a même filmé. Je vais peut-être en faire une formation très prochainement. Un ingénieur IA se fait aborder dans un restaurant, rencontre dans un restaurant par une personne qui connaît ça, et ils ont une discussion. C'est comme tu le sais, dans ton milieu, une discussion d'initié, passionné par un sujet, autour d'une ligne de code. Et notre ingénieur IA va poser la main sur le clavier de la personne qui lui dit « Peux-tu m'aider à faire ça ?» Il a posé sa main. D'autres personnes l'ont filmé en train de débarrer une ligne de code. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il pensait rendre service. Quelques minutes après, il réalise qu'il est en train de faciliter en russe l'introduction d'une application mobile qui vient d'être créée et auquel il a participé sans le vouloir. Alors, il recule, il retire ses mains du clavier, mais il est déjà compromis. Discussion continue entre passionnés et il se fait remettre un cadeau, un petit paquet en carton. Dedans, il y a une enregistreuse miniaturisée de très bonne qualité, faite en Russie. Il accepte le cadeau, mais il n'y a rien dedans. En fait, il n'y a pas de mal, c'est un cadeau électronique, ce n'est pas un objet d'espionnage nécessaire. Mais il accepte un cadeau de la part de quelqu'un dont il sait pertinemment que la personne est problématique. Il est compromis. Il peut être victime de chantage en tout temps. Donc, ce genre de situation-là, toi, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas sophistiqué. Une discussion, tu me rends service, j'observe que tu me rends service, les gars qui veulent le piéger conservent une trace qu'il a rendu service, lui donnent un petit paquet, un cadeau quelconque, c'est photographié, c'est filmé, c'est trop tard. Il faut avoir le réflexe de faire attention à ça.
La conclusion, ne plus jamais rendre service.
Non, ben, savoir ce qu'on fait, poser les bonnes questions et comprendre la situation. Après, on peut mieux agir, hein, c'est ça.
Parlons un peu de l'Europe, parce que nous, tous les deux, on connaît quand même pas mal l'Union européenne et tout ça. C'est quoi leur niveau le niveau de préparation et de réponse pour les pays de l'Union européenne?
Face à quoi?
Face à des menaces de cyberattaques, par exemple, surtout au niveau de la cybersécurité.
Ben, c'est bon parce que la prise de conscience a été faite il y a plusieurs années. Donc, moi, j'ai quitté l'Europe il y a 23 ans, donc je ne suis peut-être pas la meilleure personne. Il y a un petit décalage qui se fait avec le temps, mais je sais que le niveau d'alerte, de préparation, de conscientisation était élevé. Donc, il est forcément un peu plus affûté que chez nous, avec cependant une faille qu'on a aussi. C'est que tu as entendu parler, c'est une question légale, des lois américaines extraterritoriales, notamment le Cloud Act et d'autres dispositions similaires, qui font qu'une compagnie européenne n'est pas seulement victime ou potentiellement victime d'attaques qui viennent d'Europe de l'Est, très à l'Est, ou qui viennent du Moyen-Orient. Elle peut également se trouver... est une cible intéressante pour des compétiteurs américains. Tu sais que le Cloud Act, le problème que ça pose, et le Patriot Act aussi, c'est que si ton matériel informatique inclut des composants appartenant à une compagnie américaine, si ton nuage est un nuage américain, en tout temps, une compagnie américaine peut aller voir un juge aux États-Unis dire que ton entreprise ne respecte pas certaines règles, et ouvrir un dossier d'enquête qui souvent va être accepté par la justice américaine si c'est des montants de plus de 100 millions de dollars ou un sujet stratégique. Et là, toutes les données que tu as déposées sur un nuage américain peuvent être absorbées, consultées, sans que tu sois prévenu, pour monter un dossier qui peut peut-être devenir problématique pour toi. Je te dirais même que si tu fais une seule transaction en dollars américains, parce que le dollar américain est américain, Tu te retrouves concerné par les lois extraterritoriales américaines. Alors, ça n'arrive pas à tout le monde, il faut que ce soit des grosses affaires, des gros enjeux, des grosses sommes d'argent, donc il n'y a pas de panique à avoir. Mais il faut comprendre que ce sujet est rarement évoqué, mais c'est quand même gros, là, parce que tu ne peux pas t'en sortir facilement quand ça arrive. Alors, évidemment, c'est quand des compagnies, par exemple, une compagnie québécoise qui aurait un contrat de plus de 100 millions à l'étranger et qui rentrerait en compétition avec une compagnie américaine aurait intérêt à faire attention à ses communications si jamais ils viennent à fâcher leurs compétiteurs.
Très intéressant. Pourquoi est-ce que, en général, les hackers sont plus en avance que les défenseurs? C'est quoi pourquoi est-ce que le phénomène existe et comment est-ce qu'on peut le diminuer cette avance des hackers?
On ne le diminuera jamais et ce phénomène existe depuis 3000 ans. Depuis que quelqu'un a inventé le bouclier et que quelqu'un a inventé l'épée. Tu le devines, l'épée a toujours fini par défoncer le bouclier. Il y a toujours un écart irrattrapable. Pourquoi ? Parce que quand tu es en mode offensif, qui pense tout le temps, 7 jours sur 7, jour et nuit, tu es naturellement dans l'innovation et la recherche. Quand tu es en mode défensif, tu as autre chose à faire que d'actualiser ton bouclier, tu le fais de temps en temps. Donc, le décalage de motivation, d'énergie, de temps et de moyens, il est inévitable. Donc ça, c'est pour répondre à ta question sur 3000 ans, puis ce sera encore la même chose pour les millénaires à venir. L'autre phénomène, c'est que le hacker a du plaisir à chercher. C'est ça ce qu'il définit, hein, la curiosité, entrer là où ce n'est pas autorisé, frapper aux portes, a du plaisir à fouiller, chercher, trouver les opportunités, alors que le mode défensif n'est pas dans ce même plaisir. Donner un exemple tout simple, parce que je l'ai vu passer sur les forums il y a un an et demi, puis c'était tellement drôle et dramatique en même temps. Beaucoup de sites commerciaux, pour te laisser rentrer, te proposent, plutôt que de rentrer par ton mot de passe, ton identifiant et mot de passe, pour te simplifier la vie, te disent « Identifiez-vous par Google, LinkedIn » ou Facebook. Les gens aiment ça parce que ça simplifie leur visite sur le site web. Des hackers ont repéré que la petite fenêtre contextuelle était ultra basique. Les logos sont à peine détaillés et que c'est la même fenêtre partout. Puis tout le monde est habitué. Elle est donc extrêmement facile à copier et à simuler. L'attaque était la suivante. Faire entrer sur un site web d'une compagnie de commerce en ligne un logiciel qui, une fois sur 100, envoie leur propre fenêtre contextuelle et non pas celle du magasin. Mais elles sont indissociables, elles sont exactement identiques. Donc, le client, une fois sur 100, rentre ses infos personnelles au complet. Parce qu'une fois que tu as accès à ton identifiant Google, tu rentres dans le site du magasin, mais aussi tu peux retracer la personne au complet. Une fois sur 100, rentrer toutes ces informations-là. Et comme c'était seulement une fois sur 100 que la fausse fenêtre apparaissait, il n'y a pas eu beaucoup d'alertes, il n'y a pas eu beaucoup de panique. Donc, ça a mis beaucoup de mois avant d'être détecté. Comment il a trouvé ça? Ben, c'est simple. Il achetait sur un site web. Il a vu apparaître la fenêtre, le jeune pirate, ou le groupe jeune pirate, puis ils se sont dit, intéressant. Si c'était nous qui faisions la fenêtre, on pourrait tout récolter. Puis l'idée est sortie comme ça. Parce qu'il y a incompatibilité entre une défense solide et une facilité d'utilisation.
Philippe Chevalier, sarx.net, merci beaucoup pour ton temps et j'espère pouvoir discuter une prochaine ou des prochaines fois sur ce sujet très intéressant. À très bientôt.
Merci beaucoup.
The Montreal Hacker, your cybersecurity magazine in Montreal. Montreal Hacker.
Ascoltate l'emissione di radio Marcaro per 90,3 FM CKUT.
N-avea cum să fie ușor. Și poate irosesc de dor, de dor, de dor. Toate amintirile iar captiv în mintea mea. Eu ți-aș da totul de dor să te simt pe loc. Tu jură-mi că n-o să mai pleci. Dacă nu mai e foc, te
se face cu dor.
Eram un suflet lefter și mi te-am luat ca job. Inimă de oțel, fără vreun țel, te-am luat ca scop. Credeam că vrei un partener, dar tu voiai un rob care să tragă, să facă totul frumos ca în Photoshop. Mă plăteai cu buze calde în zile reci de iarnă, sau te lepădai de bluze fade într-un tablou de toamnă. Îmi serveai doar vorbe dulci într-un argou de doamnă, dar iubirea ta era cuvânt și nu știai ce înseamnă. Mă plăteai din ce în ce mai prost, deja iubeam pe credit și dragostea în rate n-are rost. Pentru toate zilele în care te îmbrăcam în flori, te-am lăsat pe cont cu un mare deficit de dor. Uite de misie.
Acoperă-mi inima, inima, cu tine sau mai bine cu umbra ta. Cum se face că se face cu dor.
Montreal Hacker, your cybersecurity magazine in Montreal. Montreal Hacker.
N-am să-ți dau, n-am ce să-ți iau. Iubire mare, n-ai nici haz, ai doar necaz. Au supărare fiartă pe tine am fost, dar ce prost ți-ai ars o păs. Talent major că n-ai, tu n-ai culoare, dacă aveai azi mă iubeai. Hai du-te tare, fiartă pe tine am fost, dar ce prost ți-ai ars o păs.
Superstar, Pancho e Tauco. Jucă mai bine stau corporot. Ai un hain de mai tribat. Vagabond, dar tu mă cam trezat. N-am nicio șansă scap tribat. Eu de-a perfect, e la ca Bangladesh. Cugeana pe mine, nu pot să fac niciun.
ID and Production Nuit d'Afrique present Women of the World Raise Their Voices. Five special concert evenings from February 1st to March 8th. Don't miss the grand premiere. Lidl's Cameroonian Slam, Brazilian songwriter Bia Pereira, Lorraine Classen's 40-year career anniversary, The Roots Daughters Sound System, and Cora Virtuoso, Sona Jobarte. Discover the full program on festivalnuitafrique.com. This is a CKUT co-presentation.
What's going on, y'all? It's your girl, Miss Ben, and it's Black History Month, so you know we'll be kicking it every Tuesday right here on CKUT 90.3 FM. Every Tuesday from 3 to 5, I bring to you Heal, Black Girl Heal, where we discuss some in-depth conversations with those that got some things going on within the Black community. And let's not forget about all of the plentiful activities that you need to keep up to date with. So do not forget, each and every Tuesday for the month of February, right here on CKUT 90.3.